Tu écoutes CFLC Balado,
la radio de ton magazine qui fout la chienne,
avec Pierre Duquet et Lucas Jalbert. D'après le magazine et la websérie de Lucas Jalbert et Samuel Roy, disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Une présentation de Cabron Productions.
Bienvenue à CFLC Balado, la web radio de l'univers jeunesse interactif, ça fout la chienne. Salut Pierre.
Salut Lucas Jalbert, c'est la dernière.
Oui, le septième CFLC Balado, en tout cas sous cette formule, du moins. Peut-être qu'on vous réserve de petites surprises pour l'année 2020 à venir.
On va y réfléchir. Tout alors, on est à quelques, mon Dieu, quelques 24 jours de Noël, j'imagine. Oui, non,
c'est tout à fait, on est le 6. Ouais. Oui, donc on se sent dans l'ambiance, bien que quelques lumières et décorations soient sorties durant le dernier mois, là.
Et moi, je vous ai trouvé une petite histoire de Noël 1942, lors de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est à sa fin.
Ouais, comme d'habitude. Je voulais finir en beauté.
Et moi, je vais être aussi dans cette thématique avec toi, là, côté Noël et période festive, donc avec un film et une histoire qui fout la chienne.
Tiens, et ton actualité, c'est quoi?
On se lance tout de suite là-dedans.
Oui.
L'actualité qui fout la chienne. Qui fout la chienne.
On est allé voir ensemble le plus récent film Dr. Sleep, la suite de The Shining, début novembre. Et je sais pas si tu te souviens, il y a eu les bandes annonces forcément avant le film projeté. Et il y a eu la bande annonce du film Noël tragique. Et là, je me suis demandé, mais c'est quoi ce film-là? Et ça me rappelait vaguement quelque chose.
C'est un film d'avenir, ça.
À venir, le 13 décembre, le jour de ma fête.
Joyeux Noël. Oui, c'est et, bonne fête. Hein.
Merci. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, ça me fait penser à un autre film. Et effectivement, je n'avais pas tort. C'est le deuxième remake du film Black Christmas, paru en 1974, et donc qui va paraître le vendredi 13 décembre. Alors, lors des vacances de Noël, les sœurs d'une sororité donc à l'université deviennent les proies d'un tueur en série sur le campus. Je veux juste te rappeler, revenir en arrière sur le film de 1974.
Et voilà. On est en arrière.
Il est le tout premier film à avoir bénéficié d'un doublage québécois.
Ah.
Étonnamment, donc on remonte quand même en 1974, je suis curieux de savoir qui faisait les voix, c'est Paul Perval et...
je pense que j'y étais.
J'y étais. Black Christmas est très souvent reconnu comme étant le premier vrai slasher. Bon, qu'est-ce qu'un slasher? C'est les meurtres à coups d'armes blanches par un tueur en série masqué. Bien qu'ici, on n'ait pas de masque, on voit jamais le visage. Le tueur en série se cache toujours dans l'obscurité, évidemment, et il s'attaque à un groupe d'étudiants lors d'un événement spécial du calendrier, et sa proie principale est une femme. En tout cas, ce film a directement influencé John Carpenter pour son film Halloween, La Nuit des Masques, paru en 78, notamment pour les plans subjectifs à travers les yeux du tueur, et Wes Craven également pour Scream, la série Frisson, le psychopathe harcelant ses victimes au téléphone avant de passer à l'acte. L'idée d'un tueur qui passe ses appels depuis l'habitation même de ses victimes fut également reprise en 1979 dans le film Terreur sur la ligne, où une gardienne d'enfants était traquée.
Ça me dit quelque chose, ça,
dans la maison. Ouais. Le téléphone sonne, puis dit as-tu puis est-ce que les elle venait de monter à l'étage voir si les enfants dormaient, le téléphone sonne, et puis est-ce que les enfants étaient bien endormis, le gars au téléphone. Fait que ça veut dire qu'il la voyait de très près. Donc Noël tragique, j'ai hâte de voir ce nouveau remake donc en le 13 décembre prochain. On va peut-être en faire une petite ciné-critique, les cinémaniacs maintenant disponibles sur la chaîne YouTube. Donc tout de suite après le comme on a fait avec Dr. Sleep, tout de suite une critique à chaud avec des jeunes sur le film. Donc, on va peut-être aller voir ce film-là. Bon. Et toi, Pierre, de quoi nous parles-tu?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un très sympathique personnage qui s'appelait Hermann Göring, qui était le chef suprême de l'aviation et de l'économie de guerre à l'époque de Adolf Hitler, les nazis. Et à l'entrée en guerre, il est le successeur désigné d'Hitler.
Ah oui?
Et on le surnomme l'homme de fer, là je parle au présent, là, et il jouit d'une très grande popularité dans la population allemande.
Donc il n'est plus vivant.
Non, c'est ça. il était tellement sûr de son coup, c'était un gros bonhomme, Hermann Göring, là, et donc c'est lui qui était responsable de l'aviation qui a bombardé Londres pendant semaines et des semaines et des mois, là, avant d'abandonner. Et d'ailleurs, la petite histoire dit que s'il n'avait pas abandonné, les Anglais étaient à court d'avion, là.
Il aurait réussi son coup.
Mais donc, alors tout ça pour dire que ce personnage-là, à la fin de la guerre, lorsque, ben, à l'ultime fin de la guerre, lorsque les Russes sont entrés dans Berlin, puis tout ça, il a sauté dans sa voiture et est parti, là, comme s'il était encore le kingpin de l'endroit, le chef.
Ben
il est allé se présenter aux Britanniques. Bonjour, je suis Hermann Göring.
Comme si de rien n'était.
Oui, c'est ça. Fait un des sous, peut-être un capitaine qui l'a accueilli, l'a invité à s'asseoir, parce qu'il était toujours en uniforme, là. Il a invité à s'asseoir, prendre un petit drink, puis à un moment donné, il y a quelqu'un de plus haut gradé qui est arrivé, il dit « Hermann Göring, envoyez-moi ça en dedans ». Alors, tout ça pour dire qu'il a quand même subi une partie du procès de Nuremberg, où tous les criminels de guerre nazie ont été jugés, certains ont été pendus, d'autres s'en sont tirés. Mais Hermann Göring, entre-temps, comment a-t-il fait, parce qu'il était quand même emprisonné, a réussi à entrer en possession d'une fameuse capsule de cyanure qui, lorsqu'on la croquait, là, c'était le décès définitive. Dans les quelques instants qui suivaient. Alors, on ne sait pas s'il y a eu de l'aide qu'on lui apporte ça. Donc, il n'aura pas été condamné à mort. Il s'est zigouillé lui-même. Mmh. Alors, tout ça pour dire que j'ai retrouvé un texte de ses déclarations qui précédait de peu la Noël de 1942. Donc, à ce moment-là, toute l'Europe et plus est occupée par les Allemands. Paris, la France est conquise. Les Allemands sont à Paris. Et on va écouter ce que notre très sympathique Hermann Göring avait à dire au sujet des Français.
Dossier. Étonnante et énigme de la Deuxième Guerre mondiale.
Hermann Göring, chargé par Hitler de coordonner la politique économique à l'échelle continentale pour s'assurer la victoire du Reich, avec sa verve habituelle, ne prend pas de gants blancs. Il dit...
Dieu sait, vous venez pas envoyer là-bas pour travailler au bien-être des peuples qui vous sont confiés, mais pour en retirer un maximum. Il faut vous transformer en chien de chasse, être à l'affût de tout ce qui peut être utile au peuple allemand. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut tirer du territoire que nous avons actuellement entre les mains. En ce qui concerne la France, j'affirme qu'elle n'est pas encore cultivée au maximum. La France pourrait avoir un rendement agricole bien supérieur si, messieurs les paysans, étaient contraints de travailler davantage. D'autre part, la population française s'empiffre de nourriture que c'en est une honte. C'est là le secret de la gaieté des gens de France. Sans cela, ils ne seraient pas si gais. Je ne dirais rien, bien au contraire. Je vous ferais plutôt des reproches si nous n'avions pas à Paris un restaurant de luxe extraordinaire où l'on puisse déguster ce qu'il y a de meilleur. Mais je n'ai pas envie que les Français puissent y mettre les pieds. C'est pour nous que Maxime doit faire la meilleure cuisine. 3 ou 4 restaurants de toute première classe pour les officiers et les soldats allemands, c'est parfait. Mais rien pour les Français. Ils n'en ont pas besoin, eux, de manger de cette cuisine. Il n'est pas question ici du seul ravitaillement, mais je m'époumonne pour affirmer que je considère la France occupée par nous comme un pays conquis. Autrefois, la chose était plus simple. Autrefois, on pillait. Celui qui avait conquis le pays prenait les richesses de ce pays. Aujourd'hui, les choses se font plus humainement. Mais moi, je songe tout de même à piller, et rondement. Je vais envoyer une foule d'acheteurs pourvus de pouvoirs exceptionnels, d'abord en Belgique et en Hollande, puis en France. Ils auront tout le loisir d'ici à Noël d'acheter à peu près tout ce qu'ils trouveront dans les belles boutiques et les beaux magasins. Je ferai mettre tout cela dans les vitrines pour le peuple allemand, dans les magasins allemands, où il pourra les acheter. Je n'ai pas envie que chaque Française s'active comme une cocotte qui prend du cancer. D'ici peu, elle n'aura plus rien acheté. Je vais lui faire comprendre ce que cela veut dire sauvegarder les intérêts du Reich allemand.
Alors ça montre comment ils étaient arrogants et fiers, les Allemands. Ils avaient conquis, c'était eux les maîtres presque, on dira pas du monde encore, là, mais de toute l'Europe et plus, et eux, pff, ils pillaient partout.
Incroyable.
Les tableaux, l'or, les bijoux, tout ce que vous voulez, sans compter qu'ils tuaient des Juifs à tour de bras. Triste histoire. Je m'excuse de vous proposer un sujet pareil à la veille de Noël, mais ça prouve que ceux qui vivaient en 1942, c'était pas drôle pour ceux qui étaient conquis.
Quelle période, hein?
En effet.
Épouvantable. On fait une petite pause et on se revoit tout de suite.
On en a besoin.
Vous écoutez CFLC Balado sur Balado Québec. Vous pouvez nous regarder sur les pages Facebook, Ça fout la chienne et celle de Pierre Duquet, et sur YouTube au même nom de chaîne.
Joyeux Noël! Alors Pierre, j'espère que tu profites de la belle période. On se lance immédiatement dans la chronique cinéma.
Cinémaniaque, la chronique cinéma des passionnés de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique et de la science-fiction.
Et donc, je sais pas si toi, Pierre, ton corps est tourmenté par la rudesse hivernale à ce temps-ci de l'année.
J'adore tellement l'hiver. J'adore l'hiver lorsque je suis en forêt, dans un chalet.
Et voilà.
C'est merveilleux.
Et non, sur le boulevard Kennedy à Lévis.
C'est ça.
Dans la slush, la gadoue brune et tout ça.
Etc.
Ah non, absolument. La beauté de la forêt, les arbres enneigés, les champs, les montagnes.
Qui nous protègent du vent.
Absolument.
Etc.
Mais là, bon, l'approche des fêtes, ça nous réchauffe le cœur, les arbres s'illuminent, les familles s'attablent et dégustent des mets exquis. Et bien, Noël aussi, ça peut être aussi une période merdique pour certains. Avec cette musique qui nous agresse les oreilles depuis 23 jours, mettons on est le 24 au soir, vous avez perdu votre temps dans un centre commercial à courir des cadeaux, à dépenser le peu d'argent que vous avez durement gagné dans votre dernière année.
Ah, on est triste pas mal.
Ça n'a pas de bon sens. Et vous allez boire...
J'ai gâché ma vie!
Tout à fait. Tu vas boire justement du vin en gâchant ta vie avec des gens qui te tombent sur les nerfs. Ben, en fait, c'est le cadre dans lequel prend place le film Krampus, paru en 2015. Le long métrage réalisateur de Trick or Treat, Michael Dougherty. Puisant dans le folklore des régions alpines, Krampus est l'alter ego démoniaque de Saint-Nicolas. Le film narre l'histoire de Max, un jeune garçon ayant de plus en plus de mal à croire en la magie de Noël. Introverti, il vit avec ses parents, Tom et Sarah, sa grande sœur et sa grand-mère germanophone. La famille reçoit pour les fêtes l'oncle Howard et la tante Lisa, ainsi que leurs enfants détestables, l'insupportable tante Dorothy. Donc, Max, va martyrisé par ses cousines ce soir-là, va souhaiter que ses proches disparaissent en déchirant la lettre qu'il avait écrite au Père Noël. L'abominable Krampus viendra exaucer son vœu.
Il ressemble à quoi? On le voit, évidemment, je rappelle à ceux qui nous écoutent ailleurs que sur Balado Québec, on illustre notre balado sur YouTube et sur la page Ça fout la chienne et Cabot Productions.
Exactement. Donc, Krampus, c'est entre mi-homme, mi-chèvre, mi-démon, grande barbe avec des sabots, des chaînes, avec des cloches qui fait teinter. Ben justement, l'histoire qui fout la chienne, qui va clore le balado, c'est l'histoire de Krampus. Donc, je détaille un peu plus ce personnage-là.
OK.
Et donc, le film Krampus, donc, sorti en 2015, est un conte à la croisée des Gremlins, de Maman j'ai raté l'avion et de l'univers acidulé de Tim Burton, rappelant Fright Night par son affiche et le sapin à des boules pour sa maison et sa famille, mêlant humour et effroi, le réalisateur et ses co-scénaristes donnent vie à une série de personnages archétypaux aussi imparfaits qu'attachants, évoluant dans un environnement cotonneux généré par une direction artistique somptueuse. Du reste, des péripéties s'enchaînent dans un récit parfois verbeux avant de laisser place à une conclusion aisément prédictible. Bon, assez rapidement, le spectateur attentif, oreille dressée tel un renard, réalisera que l'utilisation systématique de clichés ne vise qu'à éveiller une certaine nostalgie. Non content de glaner un jeune public, le réalisateur s'adresse également aux grands enfants qu'on est. Au-delà des protagonistes stéréotypés, Krampus est chargé d'images charmeuses. Le bestiaire est savoureux, old school, fait de marionnettes, d'animatroniques. C'est pas des effets spéciaux, c'est vraiment des gens costumés, des marionnettes qu'on met animées mécaniquement. Donc on ramène un peu le old school, l'effet old school. Krampus porte un message aussi simpliste qu'universel et désire divertir sans user d'artifices outranciers. Donc l'hommage rendu aux productions horrifiques ou non de Noël est total et déborde de respect seulement. Le film est loin d'être exempt de défauts. Hein. Bon, à force de vouloir plaire au grand nombre, au plus grand nombre, le réalisateur parvient pas à trouver un équilibre entre les percées humoristiques de Krampus et son emploi d'une imagerie parfois anxiogène. En résulte une œuvre, ni vraiment drôle, ni vraiment effrayante, qui s'avère par moments un peu austère, mais Krampus demeure malgré tout un divertissement familial susceptible d'égayer vos fêtes de fin d'année. Il y a une partie même animée, un peu style dessin animé, mais fait comme ombre et lumière. C'est de toute beauté. Ça, franchement, c'est quand la grand-mère allemande raconte l'histoire de Krampus, la légende de Krampus. C'est tout animé, mais comme des sous forme d'ombre et lumière. Donc, c'était vraiment très, très bien fait. Bon, il fait partie de ces catégories de films réconfortants aux imperfections émouvantes qui conviennent de regarder sous une couverture douillette avec un chocolat chaud et entre bons amis. Ça mérite d'être vu un bon film, Krampus, de 2015.
Mais 2015...
C'est assez récent.
Mais comment on fait pour les retrouver maintenant? Club vidéo...
Sur les Netflix de ce monde et tout ça.
Je suppose. Et... Ben là, maintenant, il y a Walt Disney qui est arrivé.
Disney Plus, exact.
Disney, ouais. Apple, bon, etc. Je sais pas si.
Tout à fait.
Si...
Sinon, aller chez Walmart d'un bac à 5$.
Mais Burton, c'est pas lui qui avait fait le Noël de Monsieur Machin.
Oui,
truc,
l'étrange Noël de Monsieur Jack, ouais. Edouard aux mains d'argent avec Johnny Depp. Mais donc, on compare un peu le style du film, mais le film a été réalisé par celui qui a fait Trick or Treat. Donc, on en parlait d'ailleurs dans dans le magazine du mois d'octobre de sa foule à chaîne. Donc, c'est un super beau film, ce Trick or Treat, qui se passe tout le soir d'Halloween, mais qui suit différents personnages. Puis au final, on se rend compte que toutes les histoires qui se passent ce soir-là sont réunies dans la même ville. Puis toutes les personnes... Ah oui, c'est vraiment... Je te le prêterai, si tu veux, je l'ai.
OK. Et est-ce que tu te prépares pour ton histoire qui fout la chienne?
Tout à fait. Alors, l'histoire qui fout la chienne, c'est en lien direct avec le film dont je vous ai parlé. Krampus, quel est ce personnage issu du folklore germanique et...
Le Krampus de l'Université Laval.
C'est ça. OK. On lance l'histoire.
Il est l'heure de se faire peur, avec une histoire qui fout la chienne. Krampus n'est pas fait de l'étoffe des rêves. Il est doté de cornes, d'épais cheveux noirs et de crocs acérés. Porte une lourde chaîne, des cloches qu'il fait tinter avec force et d'un fouet qu'il fait claquer sur la peau des enfants qui n'ont pas été sages. Quand il les attrape, il entraîne les vilains garnements dans le bas-monde. Krampus serait une créature légendaire issue de nombreux folklores européens, plus particulièrement dans des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, précisément en Bavière, mais aussi dans certains pays de l'Europe de l'Est, comme par exemple la Slovaquie ou encore la Slovénie. Si l'on veut être plus précis alors, on pourrait trouver des réponses sur les origines de Krampus, soit dans la mythologie nordique, où il est décrit comme le fils de Hel, le dieu des morts, ou comme étant un monstre issu d'une époque pré-chrétienne des régions alpines. Il existe de nombreuses interprétations quant à son apparence physique. En effet, certaines personnes décrivent Krampus comme un monstre mi-chèvre, mi-démon. Beaucoup pensent que Krampus serait en quelque sorte le côté maléfique de Saint-Nicolas ou encore du Père Noël, car contrairement à eux, lorsqu'il arrive, ce n'est pas pour distribuer des cadeaux, mais pour fouetter les enfants qui n'ont pas effectué de bonnes actions et pour les enlever et les amener dans un autre monde. La renommée de Krampus sur son effrayante légende aurait il y a quelques années poussé l'Église à interdire les fêtes vénérant celui que l'on surnomma rapidement le Diable de Noël, car elles auraient engendré trop de panique. Il paraîtrait même que pendant la Seconde Guerre mondiale, on aurait associé Krampus à des mouvements sociaux-démocrates qui étaient réprimandés par les pouvoirs fascistes. Au final, il faut rester l'oreille attentive, car si on distingue un son de cloche ou un bruit de chaîne, cela supposerait que Krampus n'est pas très loin.
Alors voilà.
Décidément, des petites clochettes, il me semblait que je les avais entendues la nuit dernière chez moi.
Oh là là, gare à toi.
Mal. Alors, on a fait le tour.
On a fait le tour. Ça fut bien agréable d'animer cette émission avec toi, Pierre. C'est CFLC Balado. On a navigué à travers contes et légendes, mythes et complots.
Donc, 7 mois, finalement.
7 mois, 7 émissions. Les 7 jours de la semaine. Donc, à réécouter quand vous voulez. Une fois par jour.
Alors, redis sur Balado Québec sans illustration, sur ma page Facebook Pierre Duquet.
Sur la page de Ça fout la chienne Facebook
et YouTube. Ça fout la chienne et Cabot Productions aussi.
Cabot Productions, justement, Ça fout la chienne.
Sur YouTube. Okay.
Alors, voilà. Et nous, on vous réserve peut-être des surprises pour l'année 2020. On va mijoter tout ça. Évidemment, je vous le dis tout de suite, l'univers jeunesse interactif, c'est quoi? C'est, oui, un magazine, mais c'est aussi des événements, c'est des concours et c'est plein d'autres, une web série. Mais c'est aussi plein d'autres surprises qui s'en viennent pour l'année 2020, on se le souhaite.
Mais ta web-série, tu la lances, là? Il y a déjà un épisode de fait, de publié?
Oui, les deux premiers épisodes de la saison 2 sont parus le 30 octobre dernier, et les 5 prochains vont sortir simultanément durant la semaine de relâche 2020, donc début mars, en raison d'un épisode par jour. Donc, vous allez découvrir...
Par jour?
Oui, un épisode par jour, 5 épisodes, oui. Ouais. Et là, vous allez faire la rencontre des enfants perdus, une bande de jeunes qu'on va suivre sur plusieurs saisons à venir, et donc le développement d'un univers... Qu'on va voir se développer tranquillement, pas vite.
Et là-dessus, on vous souhaite un joyeux Noël une bonne année 2020.
Hey, déjà, Pierre, rendu
2020.
Là. Hallucinant.
Incroyable.
Ça fout la chienne.
Oui, en effet.
Et sur ça, on vous dit
au revoir.